Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés. On est ravis de vous revoir aujourd'hui en présence de Charles Gave et du DAF qui, pour une fois, est assez sage dans son panier.
Mais ça va venir, il va ronfler dans des minutes.
Oui, je ne me fais pas trop de soucis. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet grave, qui est la dette de la France. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous parle de la dette assez souvent, mais une chose qu'on cache ou que les gens ne savent pas assez, c'est qu'en réalité, la dette aujourd'hui de la France, c'est surtout de la dette sociale. Et cette dette sociale a été soigneusement cachée, soigneusement mise sous le tapis, soigneusement enrobée à la façon d'un Ferrero Rocher. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont du mal à percevoir véritablement ce qu'elle est, ce qu'elle recouvre. Et donc, on va essayer de faire ce... Et d'où elle vient. Donc, déjà, pour essayer de comprendre, on va essayer de s'atteler aujourd'hui à cette tâche difficile.
Et il y a quelque chose avant, oui, c'est important ce que tu dis, mais ce qu'essaye de la réalité, c'est que les systèmes sociaux sont toujours votés à l'équilibre au budget. Et la réalité, c'est qu'on les votait soi-disant en équilibre, et puis qu'ensuite, on faisait passer une partie importante des dépenses dans le budget de l'État. Ce qui était vraiment... ce qui est du faux en écriture publique, quoi. C'est incroyable.
Donc, si tu veux, aujourd'hui, sur les 3500 milliards d'euros de dette, 2000 milliards, au minimum, sont des prestations sociales versées depuis 40 ans à crédit. Donc, il faut quand même se rendre compte que 2000 milliards aujourd'hui sont des prestations sociales.
Plus celles qui ne sont pas capitalisées.
Celles qui ne sont pas capitalisées, qui sont un scandale absolument incroyable.
Qui sont moins les 2000 milliards aussi.
Au hors bilan des retraites des fonctionnaires, on va voir tout ça. Au début, à l'origine, il faut quand même voir que la dette finançait 1% des dépenses sociales en 1981 contre 10% aujourd'hui. Un dixième, ça veut dire que sur 30 jours de retraite, de primes d'achat, de RSA, de chômage, de prestations de santé, d'allocations familiales, d'allocations logement versées chaque mois, 3 jours sont financés par la dette aux générations futures. Tu te rends compte ?
C'est absolument incroyable, mais ça veut dire que comme le déficit budgétaire est de 6% du PIB, si ça fait 10% des dépenses, ça veut dire que si on n'avait pas ces dépenses, on serait en surplus, quoi, largement.
Donc, c'est quand même une immense histoire de machine du déni. Et on va essayer de refaire un petit peu aujourd'hui cette histoire.
D'acheter les voix des Français. D'acheter les voix des Français en leur offrant des choses qui n'étaient pas financées. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire d'une démocratie où les dépenses doivent être votées par les gens du pays pour que ça marche. Mais là, vous dites, vous allez toucher quelque chose et c'est vos petits-enfants qui vont payer. Mais c'est plus de la démocratie, c'est de la saloperie.
Et surtout, autre chose, c'est qu'on a laissé croire aux Français que la dette aujourd'hui était due non pas aux prestations sociales, mais à l'efficacité et au coût des administrations du régalien. Or, c'est absolument pas le cas. Toute notre dette est due à ces prestations sociales.
Et le régalien est à l'os.
Et le régalien est à l'os plus que jamais. On n'a jamais expliqué aux Français que le quart des retraites sont celles des fonctionnaires, dont le déficit est enfoui dans les comptes publics sous des couches de casuistique.
Oui.
Et on ne leur a pas donné l'idée de l'ampleur du coût budgétaire, des prestations assistentielles et des allègements des charges sociales. Donc aujourd'hui, on est là pour vous donner cette idée-là et pour vous expliquer aussi pourquoi le président de la République ne vous a jamais dit que près de 60% de la dette publique était composée de prestations sociales.
Oui, de prestations sociales que personne ne contrôle et dans lequel, à l'évidence, il y a aussi des fraudes gigantesques, parce que ces prestations sociales, elles sont distribuées sans beaucoup de contrôle, et partout, comme l'histoire de Charles Pratt, vous avez 66 millions de Français et 73 millions de cartes vitales, ou je ne sais plus, un chiffre comme ça. Donc, vous avez, qu'on le veuille ou non, dans le domaine public, les choses sont bien faites et les dépenses sont contrôlées, mais dans le système social, c'est n'importe quoi.
Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est ce travail courageux, certes un peu difficile, mais je pense que vous apprendrez des choses si vous restez avec nous. Et il faut se dire qu'il n'y a pas de fatalité, on peut tout à fait s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire bouger le curseur, comme l'ont fait tous nos voisins. Il faut faire quoi? Il faut désindexer, donc désindexation, ça doit venir tout de suite. Il faut faire un moratoire sur les nouveaux droits. Il faut augmenter l'âge de départ à la retraite. Je suis désolée.
Il n'y a pas d'autre solution.
Ça ne me fait pas plaisir, hein. je sais pas, et suppression aussi des jours fériés et de pas mal de choses. Et revenir sur des droits acquis.
Et revenir sur des droits acquis qui ne sont pas bien raisonnables, quoi.
Voilà. Alors, revenons sur l'histoire un peu. Alors, je tire toute mon immense science de ce livre formidable que j'ai passé le week-end à lire, de Nicolas Dufour, qui s'appelle La dette sociale de la France, 1974-2024, publié aux éditions Odile Jacob, et qui est lui-même Nicolas Dufour, directeur général de la Banque publique d'investissement BPI depuis sa création en 2013, qui est un livre, vous allez le voir apparaître, qui est extrêmement riche et qui est fait en plusieurs parties, donc une partie historique sur cette dette et une partie d'entretien avec des personnalités qui est donc d'un style un peu différent. Sur la partie historique de la dette, c'est incroyablement fouillé. On apprend une mine d'informations, on y retrouve tous les grands acteurs de la Ve République et vous apprendrez...
Depuis 81.
Depuis 69.
69, oui. Il y a Giscard qui a beaucoup aidé, oui.
Et on en apprend même plus que ce qu'on voudrait en apprendre. Donc je ne peux que vous le recommander si vous voulez véritablement faire la lumière sur ce sujet. Et d'après ce que j'ai appris de Jean-Jacques Netter, il y avait un grand papier dans le Figaro, ce qui ne m'étonne pas parce que c'est tout à fait
C'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut lire bien sûr, mais c'est surtout un livre pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, qui veulent avoir les dossiers, etc. C'est un livre de référence, c'est-à-dire qu'il donne ses sources, il donne tout. Donc ce qui est très intéressant, c'est que pour une fois... Il y a quelqu'un qui parle en sachant de quoi il parle et qui n'introduit pas une notion morale. Si je veux dire, il n'est pas en train de dire c'est mal, c'est bien. Il est en train de dire voilà comment ça s'est passé. C'est intéressant.
Alors, tu parlais de Giscard, effectivement, c'est le cas. C'est difficile de choisir un point de départ pour les gabegies qui ont eu lieu dans le domaine social, mais ça a sûrement commencé avec Giscard. Pompidou, lui, était convaincu que l'inflation était nécessaire et donc 3 mois après son arrivée, il dévaluera de 12,8%. C'était la dévaluation de 69, peut donc être considérée un petit peu comme le point de départ de l'incertitude.
Oui, et De Gaulle, à cause de l'URSSAF, était très attaché à l'équilibre budgétaire. Pour lui, c'était, d'ailleurs, il avait raison. Et Pompidou a commencé à laisser filer un peu. Et puis alors Giscard, c'est le gars qui avait fait des études brillantes, donc il croyait à toutes les bêtises du keynésianisme. Donc il a commencé à laisser filer en partant du principe que ceci ou cela... Et dans le fond, là, ça a vraiment commencé quand Giscard a dit « Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur ». C'est à partir du moment où l'État, le représentant de l'État se met à avoir du cœur, on est foutu.
On reviendra sur ça parce que c'est une notion importante que tu viens d'évoquer et on va la voir arriver dans les années 80 et pas forcément que pour la gauche. Mais au début des années 70, les dépenses sociales pesaient encore un poids faible dans le budget de l'État. Il y avait à l'époque 2 grands postes. L'aide au logement qui avait été créée en 49 parce qu'on avait arrêté avec les loyers bloqués et le minimum vieillesse en 56. Et elles étaient à l'époque attribuées sous conditions de ressources aux ménages. En 78, tu as 2,2 millions de Français qui bénéficiaient du minimum vieillesse qui avait été créé en 56 et Giscard l'avait revalorisé de 60% en 74. Donc, on avait à l'époque, dans le minimum vieillesse, 50% de femmes seules. Donc,
en fait, aussi en 74, c'est parce que l'inflation à l'époque était de 14 ou 15% par an. Et donc, si vous voulez, le minimum vieillesse, il valait plus rien. Donc, il fallait aussi le remettre un petit peu au goût du jour, quoi. C'était.
Et alors, la grande révolution giscardienne ne va pas s'arrêter là. C'est un peu lui qui a été le précurseur de toutes ces aides.
Toutes les bêtises.
En 74, il crée l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, qui aujourd'hui représente combien dans le budget ?
Aucune idée.
2 milliards d'euros. Donc, c'est pas une paille quand même.
C'est pas une paille quand
Donc,
même.
Donc, tu vois, à force de créer des petites niches, que je t'ouvre une porte ici, voilà.
Oui.
Et en 74, il inaugure ce qui conviendra d'appeler le traitement social du chômage. C'est la création en octobre 71 de l'allocation supplémentaire d'attente, qui est un deuxième étage d'allocation chômage permettant le maintien des chômeurs à 100% de leur salaire.
Ce qui est très étonnant. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez. Comme disait, montrez-moi l'incitation et je vous montre le résultat. 100% du salaire, ça veut dire que vous avez une incitation à ne pas travailler si vous êtes un peu flemmard. Et donc, ben, vous payez jusqu'à tant que ça doit durer un an. Donc, pendant, on vous offre un an de vacances, c'est bien.
Barre, à l'époque, sera très embêté par tout ça et il pointait du doigt justement ce risque d'emballement sur les dépenses sociales. Il avait dit en 78 qu'on ne pourrait pas continuer à concevoir un système d'avantages sociaux et l'infrastructure, avec l'infrastructure économique et démographique du pays. Et effectivement, il suffisait de regarder un petit peu une pyramide des âges sans être Madame Irma pour se dire que...
On savait déjà qu'elle se détériorait.
Mais bien sûr. Et on assiste petit à petit à la transformation de l'État libéral, parce que contrairement à ce qui est souvent dit, De Gaulle avait mis en place un État qui était tout à fait libéral avec le plan Rueff, le plan Pinet-Rueff ensuite, et ça n'est que en allant vers plus de Maastricht et plus d'euros qu'on est passé à un État qui était keynésien.
Et qu'est-ce que c'est qu'un État libéral ? C'est un État qui, dans le fond... Vous avez trois notions pour les impôts. Vous avez les impôts qui servent à payer le fonctionnement de l'État régalien, les impôts qui servent à payer, puis là, ça, moi, j'ai été une couche d'impôts qui servent, par exemple, à créer un système éducatif qui soit de qualité, à le maintenir, etc. Et puis, vous avez la troisième partie qui est l'impôt punition, vous savez, qui est de ceux qui gagnent trop d'argent, on leur pique pour le donner à ceux qui foutent rien. Et donc, pendant très longtemps, enfin, la thèse de Rueff et de Gaulle, c'était que le rôle de l'État, c'est d'être sauvagement régalien, et c'est-à-dire il n'y avait aucune... facilité à l'État régalien, la police faisait son métier, la justice faisait son métier, et ça se passait très très bien. Donc, il est exact que De Gaulle a eu une période tout à fait libérale, et c'est lui qui avait aussi signé les traités de libre-échange, qui avait accepté les traités de l'échange, qui avait été signé à Rome en 1956, il n'est jamais revenu dessus.
Alors en 1986, ce sont les marchés qui font tourner la gauche. En 78, les socialistes arrivent devant les communistes, ce qui donne raison à Médinès France, qui avait théorisé que l'étouffement du parti communiste aurait lieu par le progrès matériel. Et effectivement, au fur et à mesure, on voit arriver une gauche qui est obligée beaucoup plus de se servir de Bourdieu, on y reviendra, pour prendre le pas sur l'ancienne gauche marxiste.
Mais il ne faut pas oublier que l'ancienne gauche marxiste, elle expliquait qu'il y avait une loi qui était descendue du ciel avec les 10 autres commandements, qui était que la rentabilité marginale du capital investi baisserait avec le temps, au fur et à mesure que il y aurait de plus en plus de copieurs et de moins en moins d'inventeurs. Le manque de peau, c'est qu'il y a de plus en plus d'inventeurs. Donc la rentabilité marginale du capital investi est montée à la place de baisser. Et donc, abomination, au risque de référence, comme on disait autrefois, le niveau de vie de la population a commencé à monter.
Et comme donc c'était de plus en plus, en gros, difficile de continuer à vendre leur ânerie marxiste.
La baisse tendancielle du taux de profit, qui était quand même l'arc, ce que le marxisme affirmait avec beaucoup de force, ben, c'était une grosse bêtise. Ça amenait automatiquement la classe ouvrière vers la famine.
Et en 81, très vite, le 10 mai, le Front avait décroché pour rejoindre son plancher dans l'ASME, imposant à ce moment-là à Barre, qui était intérimaire, d'engager 40 milliards de réserves de la Banque de France pour le stabiliser. Et la dévaluation socialiste était la première depuis celle de Pompidou en août 69. En février 82, Delors avait fixé la limite des dérapages inacceptables. Il ne fallait pas à l'époque dépenser un déficit de 3% du PIB et une dette de 25%. On en rit aujourd'hui,
mais c'est amusant parce que dans le fond, on nous a imposé l'euro parce que ça l'a amené à la discipline et en fait, ça a permis tous les écarts.
Et bien justement, c'est qu'à cette époque-là, il y avait une corde de rappel pour forcer les dirigeants à faire des plans de redressement, c'était le change. La défense de la monnaie, ça interdisait donc à la France des dérives idéologiques prononcées. Tout de suite, on avait le change qui arrivait en disant « Eh oh ! Eh oh !»
Je peux vous raconter une histoire que je sais de source sûre, qui est tout à fait étonnante. C'est lors de la troisième dévaluation, donc celle qui a fait tourner Mitterrand, etc. La banque JP Morgan, qui est la banque... c'est celle qui est la plus puissante des banques commerciales et de loin... a téléphoné à Delors pour lui dire « Nous n'assurons plus les échanges de la France en monnaie étrangère. » C'est-à-dire qu'on vous coupe on vous coupe de tous les marchés internationaux, etc. de l'or en pleurs a réveillé Mitterrand à 2 heures du matin. Mais en pleurs, il pleurait. Hein. Il avait pleuré avec Chip et Morgan qui m'a raconté l'histoire, donc c'est rigolo. Et Mitterrand, à 3 heures du matin, a accepté, et le matin, Chip et Morgan rouvrait l'accès de la France aux transactions internationales. Donc là, si vous voulez, c'est pas que le FMI est venu à Londres, à Paris, je veux dire, c'est que on a dit, ou vous changez, ou vous êtes cuit, quoi.
Oui, mais tu vois, c'est un petit peu dingue, c'est-à-dire que les hommes politiques français étaient tellement incapables d'être rationnels qu'il fallait la dure correction des marchés pour les faire marcher droit.
Mais il fallait que les États-Unis leur disent, la récréation, c'est fini.
Oui, le problème, c'est que du jour où on rentre dans Maastricht et du jour où on rentre dans l'euro, on n'a plus eu ces justes rappels qui permettaient à ces gamins de siffler la fin de la récré. Parce que sinon, ils résonnent comme des planches. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis toujours.
C'est-à-dire qu'ils méprisent le peuple.
Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils ne savent pas ce qu'ils font, voilà, c'est ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais en même temps, ils méprisent le peuple. Ils disent, tant que je l'offrirai des sucettes, ils brilleraient les rats.
Et c'est ce qui se passe. Donc, ils auraient tort de se priver.
La moitié des gens ne votent plus. Hein.
Oui, mais bien sûr. Mauroy saute sur la loi Savary à ce moment-là. On a les débuts du pacte pour la France entre le RPR et l'UDF. Et parmi les 20 engagements fondamentaux à ce moment-là qui sont signés entre le RPR et l'UDF, c'est que la dette publique ne doit pas croître plus vite que la richesse nationale.
Tiens donc,
on va en rire parce que on va vous rappeler un peu plus tard dans quel état on se trouve actuellement.
Mais on est passé de 25% de dette à 120.
Mais gardez dans l'idée que la dette publique ne doit pas croître plus rapidement que la richesse nationale, ce qui paraît tellement logique qu'on l'a oublié. C'est vraiment l'œuf de Colomb, cette histoire.
Mais en plus, on peut vraiment se poser la question, pourquoi une dette ?
Ah non, mais bon.
Tu vois, l'essentiel, c'est pourquoi ferait-on une dette qu'on va laisser à nos enfants alors que normalement les impôts doivent couvrir. Si j'ose dire, la Suisse a quasiment pas de dette.
Donc, en cette période, la dette continuait de monter. On est à 34,7% du PIB, ce qui aujourd'hui nous paraîtrait formidable, mais ce qui à l'époque n'était pas une avancée puisqu'on était, était monté.
Mais c'était très embêtant, 37%, parce que les taux d'intérêt étaient à 12, 13 ou 14, et que financer une dette à 12, 13 ou 14, même si elle est petite, ça fait mal. Alors qu'aujourd'hui, on est à 120, mais les taux sont à 3. Donc, si vous voulez, si vous faites la multiplication, le service de la dette devenait déjà un problème.
Donc la dette passera donc de 34,7 du PIB en 88 à 36,8 en 90, puis 41,7 en 92, avant la catastrophe des années 96 où elle prend 20 points.
Tu sais pourquoi elle prend 20 points ?
Non.
Mais c'est tout simple, c'est parce que ce crétin de Trichet refuse de sortir le franc du SME et déclenche une récession monstrueuse, parce qu'il faut savoir que quand le SME, le système monétaire européen, quand l'Allemagne s'est réunifiée, les Allemands ont mis Köhl a décidé de un Ostmark, c'est-à-dire la monnaie d'Allemagne de l'Est, allait être convertie en un Deutschmark. C'était une imbécilité. Donc la masse monétaire allemande a augmenté de 18% d'un seul coup. La Bundesbank, avec mon vieux copain Karl Otto Pöhl, qui était un type au poil, tout ce qu'on aime chez un Prussien, vous savez.
L'humour,
la flexibilité, tu vois, Douzard, il était très très bien. Je peux raconter une histoire sur Karl Otto Pöhl, il était très marrant. Enfin, pas très marrant, il rigolait pas, quoi. Et donc Karl Otto Pöhl attrape un coup de sang, met les taux d'intérêt à 6 ou 7% pour réduire la masse monétaire. Bon.
As he should.
Bon, il l'a réduit comme ça, mais pendant ce temps-là, si tu veux, il y avait la Suède qui était dans un état pas possible, très endettée, l'Angleterre qui par hasard était très endettée, l'Italie qui était très endettée, donc s'il met les taux d'à 7%, tout le monde saute. Donc ces trois pays, qui sont trois grands pays industriels, sortent de l'euro, sortent, s'en vont. Et nous, on se retrouve donc ayant réévalué contre trois de nos principaux concurrents de façon gigantesque. Donc, tout le monde dit à Trichet, qui était l'inénarrable incompétent qu'il a toujours été, qu'il faut sortir la France aussi de l'euro et puis laisser l'Allemagne se démerder avec ses 7%. Eh bien, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que Trichet réussit à faire changer le Premier ministre de l'époque. Ça avait été décidé à Maastricht que la France aussi sortirait du SME. Ben non, il le fait. Donc, les 20% là qui sont le début de la catastrophe, c'est tricher. Et personne d'autre. C'est le tricher, j'ai toujours dit que c'était le Gamelin de l'économie française, celui qui avait tué l'économie française.
Alors, comme on a toujours des inspecteurs des finances qui sont extrêmement brillants...
Dont ce brave Trichet, qui est inspecteur des finances.
Il crée une nouvelle obligation du Trésor, OAT, en 85, qui est financée de manière plus moderne que par le passé. C'est une obligation assimilable au Trésor qui est calquée sur les Treasury Bonds américains.
Ouais.
Et donc, ça permet de fluidifier sur les marchés l'accès à la dette. En fait, il crée un outil de fluidification. Mais ça...
Et on invente aussi, en ce moment-là, à Paris, un outil très intéressant qui était le futur sur l'obligation. Et c'est-à-dire, et c'est là où les Français ont développé des capacités extraordinaires de gestion des dettes publiques, avec ce qu'on avait appelé le MATIF, qui a été une invention extraordinaire. Et les inspecteurs des finances ont fait le nécessaire pour que tous les hedge funds qui s'étaient créés à l'époque en France pour jouer avec ça se partent pour Londres.
Et donc, effectivement, au printemps 91, à la suite de la réunification allemande, la dette est devenue hors de prix. À la fin de la période Rocard, la charge d'intérêt représente plus de 2% du PIB. À comparer aux 3% du budget de la défense, ça pèse un poids très lourd sur le déficit.
Et tu sais combien il est aujourd'hui, la charge de la dette ? 2,5%. Donc, on avait une dette qui était beaucoup plus basse, mais des taux d'intérêt beaucoup, beaucoup plus élevés. Et c'est pour ça que la Suède a sauté.
Et malgré tout, bien qu'on ait ce poids absolument forcené sur nous, Rocard va continuer d'augmenter les dépenses sociales.
Il espérait devenir président de la République, le pauvre garçon.
Et le chômage structurel de la France continue. C'est ce que tu avais étudié aussi, on en parle souvent. C'est-à-dire qu'on a un chômage structurel qui... quoi qu'on fasse, ne descend jamais autour de 7%. Est-ce qu'on peut-être réfléchir au fait que ce chômage soit aussi tenu par les amortisseurs sociaux qu'on a mis en place ?
C'est-à-dire ce qui se passe, et c'est un truc que les gens ne disent pas assez, c'est qu'il y en a une crise financière, énergétique, dans les années 70. Là, le chômage monte dans tous les pays du monde de façon extraordinaire. Puis ensuite, il redescend. Ben, la France est le seul pays depuis 1974... qui n'est jamais amené son taux de chômage en dessous de 7%. C'est quand même extraordinaire. L'Angleterre, on est tombé à 3, les États-Unis à 4, l'Allemagne avait plus de chômage, la Suisse... ça fait rien. La France, on n'a jamais réussi... quel est le seul pays de l'OCDE qui n'ait jamais baissé son chômage en dessous de 7%? C'est la France. Mmh. Et donc la question essentielle, c'est... ça veut dire que l'économie privée, créatrice de jobs, n'a jamais réussi... ne s'est jamais remise de la crise de 1974-1978 et de ce qui est arrivé après. Et donc, je me dis, mais peut-être plutôt qu'à la place de chercher de nouveaux impôts, on pourrait chercher qu'est-ce qui a empêché le chômage de passer en dessous de 7, quoi.
Mais oui.
Ce serait peut-être un sujet d'étude intéressant pour monsieur... Comment il s'appelle, Zucman, là ? Je ne sais pas comment il s'appelle, Sandouille. Zucman, oui, il pourrait chercher pourquoi le chômage depuis 40 ans, ou pour monsieur Piketty, qui aime les statistiques historiques qu'il fait lui-même, d'ailleurs.
Alors, en décembre 1990, le RMI est créé et ça concernait à l'origine 400 000 foyers. Je vais vous poser une question. Et combien de foyers vous croyez que ça touche aujourd'hui, le RSA ? Talala, roulement de tambour, c'est 4 millions de personnes. Donc, à l'origine, on crée un amortisseur social, encore une fois, pour 400 000 foyers qui devaient être au point de rupture parce qu'on décide, voilà. Aujourd'hui, ça touche 4 millions de personnes. Il y a forcément quelque chose qui nous a échappé dans la conception de la chose en question. Une idée comme ça.
Et c'est ce que disait ce bon Milton Friedman, buvons un coup. Mais ce que disait Milton Friedman, c'est que si vous payez les gens à rien foutre et si vous taxez ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Si vous payez les gens à rien foutre, évidemment qu'il va y avoir des gens qui vont s'y mettre, parce qu'en plus, ils touchent de quoi vivre, puis ensuite, ils vont aller couper le bois du voisin, ils vont aller réparer l'électricité de la voisine, tout ça payé en cash. Donc, c'est... dans l'Église catholique, il y a quelque chose qui est très important, si vous voulez, c'est qu'il y a le pécheur, et puis il y a celui qui incite au péché. Mmh. Et celui qui incite au péché, il est beaucoup plus coupable que le pécheur, hein. Ce que j'essaie de dire, c'est que ces vocations sociales, ces allocations sociales, avaient comme but de subventionner les gens qui ne voulaient pas travailler, qui cherchaient l'oisiveté. Or, l'Église catholique, encore une fois, nous a toujours dit que l'oisiveté était la mère de tous les vices. La paresse, c'est pas un truc qui était très bien vu par nos ancêtres.
On voit ça avec le prince Andrew.
Ben oui.
Ce gamin, à l'origine, au moment de la guerre des Falklands, il a été superbe et tout. Et puis ensuite, on l'a entretenu dans une oisiveté où il n'a rien fait. Et résultat, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, des conneries toute sa vie, pardon. Bah, mais
il,
voilà.
Il a couru les petites filles de 15 ans. Bah, voilà,
bah, c'est pas bien intéressant.
C'est pas bien intéressant. Mais il
à l'époque, il serait mort sur un champ de bataille. Ça aurait moins eu un peu de dignité.
Bien sûr.
En tous les cas, pour revenir à la situation de la France, sans en être consciente, 14 ans après le premier choc pétrolier, la France est rentrée à bas bruit dans une politique de l'emploi de plus en plus malthusienne. Nous en serions sortis alors
pas,
par la force...
Pas malthusienne, c'est une politique de l'emploi qui considère que le travail est une malédiction.
Aussi.
Donc, moralement, c'est un drôle de truc, quoi.
Si tu veux, on en serait sorti par la force des choses si les marchés d'échange à l'époque avaient pu continuer de nous aiguillonner dans les années 70. Mais l'euro est arrivé. Or, l'euro sera, dès l'an 2000, le grand narcotique. Tout ce qui était de peur d'attaque sur le franc, de crainte de dévaluation, de sensibilité au niveau des réserves de change disparaissent du jour au lendemain. Et on se retrouve, depuis lors, comme des morts vivants, sans aucun signaux pour signifier...
Signal.
Sans aucun signal, bien sûr, puisqu'il n'y en a pas.
Et
ce qui veut dire que désormais, on est sourd.
On est sourd, mais notre déficit budgétaire est aussi financé par la Banque centrale. Ce qui était formellement interdit par les traités. À partir de la crise de l'euro en 2012, moi j'avais annoncé que l'euro allait sauter entre 2012 et 2014, donc j'avais fait un livre là-dessus. D'ailleurs, qui s'appelait « L'État est mort, vive l'État ». Je faisais des calculs très savants pour annoncer que ça allait sauter vers 2012-2014. Ça a été publié en 2007-2008. Et donc, je fais ça très bien. Et qu'est-ce qu'ils font une fois que l'euro saute en 2012-2014? Monsieur Mario Draghi décide qu'il va acheter la dette. Et donc, ça veut dire que d'un seul coup, la France peut faire financer ses déficits par la Banque centrale qui fait des billes et qui fait du papier en conséquence. C'est incroyable.
Alors, on va y venir. Là, je suis en 93-95 et la gauche connaît une déroute sans précédent aux élections législatives. La droite l'emporte avec 58% au second tour. Le déficit public, quant à lui, passe de 4,6% du PIB en 92 à 6,4% en 93, dont un déficit primaire de 3,7%.
Alors, déficit primaire, j'explique pour ceux qui nous écoutent, c'est le déficit avant le service de la dette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous faites les recettes, les dépenses, et les dépenses pour la dette, vous n'avez pas le choix. Donc, ça ne dépend pas du gouvernement. Si les taux d'intérêt montent, etc., ça ne dépend pas du gouvernement. Donc, automatiquement, vous voulez savoir le déficit dont le gouvernement est responsable. Eh ben, c'était 3,5. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est aux alentours de 6 à nouveau, donc ça ne s'est pas amélioré depuis.
Et alors, j'en parlais tout à l'heure, mais en février 93, Bourdieu publie un recueil de 900 pages pour expliquer que le marxisme des années 70 n'est plus en mesure de produire un discours de généralité du fait des progrès incontestables du niveau de vie des Français depuis Pompidou. Mais le livre de Bourdieu est important parce qu'il assigne l'individu à son origine sociale et lui dénie toute possibilité de s'en affranchir. Le bourgeois est un bourgeois. Mais c'est important parce qu'il va donner, Bourdieu, avec tout ça, une sorte de nouvelle impulsion à la gauche par la sociologie. Et la campagne qui va se faire à ce moment-là à droite en 95-97, entre Chirac et Balladur, ne se fera pas par la droite. On ne va pas parler des déficits, on ne va pas parler des questions qui fâchent. On va faire une campagne par sa gauche. Les deux, Chirac comme Balladur, vont faire des campagnes politiques en brossant le peuple de gauche et en donnant donc des gages socio-économique, encore une fois, alors qu'il aurait fallu avoir un discours de rupture en disant « la chenlit, ça suffit, la dette, ça suffit ». Et au contraire, la campagne se fait par la gauche, ce qu'on n'attendait pas de la droite.
Et c'est de là que date l'écroulement de l'éducation française, de l'éducation nationale, parce que Bourdieu, c'est celui qui a tout. Il a expliqué, si vous voulez, qu'il n'y avait que les enfants de bourgeois qui pouvaient faire des études, ce qui n'était pas vrai, il suffit de regarder, bon, je sais pas, Jaurès et Péguy, dans les deux cas. C'était complètement faux, mais alors surtout ce qu'il a fait, c'est que donc il a expliqué que il fallait faire en quelque sorte abaisser le niveau pour que tout le monde puisse y arriver. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait de l'excellence dans le système. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que ce cher homme, qui était Béarnais d'ailleurs, il avait pas mal d'enfants, 3 ou 4 je crois, et il les a tous collés à Henri IV. Parce qu'il faisait partie du Collège de France. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est, et aussi, c'est un moment où il s'est passé quelque chose. Le Collège de France, qui est daté de François Ier, où ça avait toujours été des gens d'excellence, on mettait, a été capturé par la gauche.
C'est-à-dire que, bon, comme tout...
Elle a été capturée, puis c'est fini. Maintenant, il n'y a plus personne de droite au Collège de France. Alors qu'autrefois, c'était quand même... un peu comme les grands professeurs d'université, c'était des individus qu'on choisissait. Tandis que là, on s'est mis à... il y a des individus qui étaient très puissants qu'on n'a plus jamais choisir. Donc... à ce moment-là, toute la France a basculé vers des idées de gauche sociologique. Mmh. C'est de là où tout est venu, quoi.
Et alors, c'est intéressant parce que, alors que l'indice Gini qui mesure les inégalités dans le monde montre qu'en France, il n'y a pas eu de déstabilisation et que les inégalités sociales sont restées relativement pérennes, toutes les campagnes se font désormais sur... l'idée qu'il y ait une explosion d'inégalités nouvelles.
Que les riches sont des salauds.
Et alors que c'est complètement incorrect dans les faits.
Hein, alors je peux vous donner les chiffres si vous voulez. C'est que aujourd'hui, par exemple en France, la différence entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est à peu près, avant prélèvement, taxes, etc., c'est à peu près de 16 à 3. Eh bien, aujourd'hui, après les prélèvements, je crois qu'on est passé de 3 à 6. C'est-à-dire que la moitié, les trois quarts des différences sociales, pour les 10% les plus riches et les plus pauvres, sont complètement absorbés. Mais alors, comment ils tournent ça? Parce que c'est vrai, en plus. Il n'y a plus de différence. C'est qu'ils expliquent que dans les 10%, il y a les 0,01% qui sont riches comme des puits, et que ceux-là, il faut les massacrer aussi. Tu vois, donc, c'est de là d'où vient la haine. Et les discours contre les Macron, les Arnaud, etc., c'est que c'est vrai qu'il n'y a plus de différence sociale, mais il y a quand même des gars qui ont réussi de façon tout à fait extraordinaire, et ceux-là, il faut les punir. Mmh. Mais c'est quand même curieux. Pourquoi cette rage ?
Alors, on est en 97, et on constate que depuis 1972, les dépenses pour l'emploi ont doublé en pourcentage du PIB.
Et le chômage n'a pas baissé.
Les aides pour le logement... aussi, les dépenses pour la pauvreté ont quadruplé.
Mmh. Et il y a de plus en plus de pauvres, tiens donc.
Et toujours en proportion du PIB, tandis que la dette, elle, a triplé. La marée n'a cessé de monter. Fin 1997, à la veille de la reprise économique, le déficit public est de 3,7%, mais on se rapproche de l'équilibre primaire. Les taux à 10 ans sont à 6% et la charge des intérêts représente 3% du PIB. Une partie très importante des déficits était déjà liée aux retraites qui représentaient 40% des dépenses sociales et donc 20% des dépenses publiques. C'était l'éléphant dans la pièce, mais les négociations de Maastricht avaient explicitement exclu les dépenses sociales du champ du traité, ce qui est incroyable. Encore une fois... la question alors, ne sera pas posée.
La question ne sera pas posée, mais ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de négocier entre tous les Européens que c'est les dépenses militaires qu'on va exclure du...
Oui.
Donc, alors maintenant, on a exclu les dépenses sociales, qui fait que les déficits ont explosé, on est tous ruinés, il n'y a plus un rond. Mais maintenant, on va mettre les dépenses militaires, comme ça, on pourra aussi dépenser pour l'armée. Mais dépenser pour l'armée, avec quel pognon ?
Et donc, c'est la première fois... que Jospin, à l'époque, reconnaît qu'un énorme déficit a été accumulé dans le champ des retraites de fonctionnaires. Mmh. Mais attention, quand même, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer aux 35 heures, payer 39. Parce qu'on s'est dit que c'était une bonne solution pour augmenter le coût du travail de 11%, qui s'ajoutait aux effets du SMIC accordé par Jospin après sa victoire. On s'est dit, voilà une façon...
Parce que ce crétin de Juppé avait demandé, alors que la droite était majoritaire partout dans les États, avait demandé à Chirac de dissoudre le Parlement.
Oui.
Et donc, d'un seul coup, alors qu'ils dominaient tout, ils avaient encore 3 ans de tranquille. Mais Juppé voulait avoir 5 ans parce qu'il voulait réformer la sécurité sociale, ce qu'il a plus ou moins fait en la nationalisant, c'est-à-dire la pire des solutions. On ne dira jamais assez le mal qu'ont fait des gens comme Juppé, inspecteur des finances. comment il s'appelait, Trichet, inspecteur des finances, etc. L'inspecteur des finances, les inspecteurs des finances ont coulé la France. C'est extraordinaire. Et il s'est passé un phénomène aussi sociologique qui m'a beaucoup frappé. C'est que les moines soldats dont j'ai souvent parlé, vous savez, qui étaient les gars qui s'occupaient autour de De Gaulle de l'industrialisation, etc., étaient souvent des corps des mines, c'est-à-dire des gars qui avaient fait Polytechnique et les meilleurs. Et ils savaient faire une règle de trois en général. Hein. C'était des gars qui étaient quand même très compétents. Et il y a eu une espèce de bagarre pendant les années 90 entre les inspecteurs des finances et les corps des mines, et les corps des mines ont perdu. Et donc on s'est retrouvé avec des crétins baveux qui savent parler, qui avaient... Donc les littéraires ont remplacé les scientifiques. Et les littéraires, ils sont pas...
Ouais.
C'est un peu triste.
Alors, on est donc à l'époque de Jospin. La question est comment on trouve des sous. Et Laurent Fabius, un autre, tiens, crée l'agence...
Il était que conseiller d'État, lui, mais...
Crée l'agence France Trésor, AFF, qui est chargée de procéder aux émissions afin de gérer la dette française, qui représente déjà 910 milliards d'euros. Et c'est inspiré du debt management britannique, l'AFT, qui fait faire un saut quantique à la gestion des émissions. Elle permet de séparer le principal et le coupon, et ça a autorisé une gestion très finie du risque des taux. Enfin bref, apparemment, ça a permis de contracter plus de 1 000 milliards de dettes supplémentaires dans la décennie suivante. Donc, formidable.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous facilitez les... Et alors, en plus, l'agence France Trésor, où on a collé tous ces dossiers, toute une série d'inspecteurs des finances, a été très, 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 très fière de placer la moitié de cette dette chez les étrangers.
Oui, formidable.
C'était une très bonne idée. Comme ça, on devenait absolument dépendant de ce que voulait le Qatar, etc. Autrefois, qu'on le veuille ou non.
On essayait de faire souscrire
les Français.
Les Français, bah oui, quand il y avait eu la grande sécheresse, ainsi de suite,
c'est un problème français. Donc, comme
essayer de le régler entre nous, en famille.
Et surtout, dès que moment où votre dette est détenue par les étrangers, ils ont sur vous un instrument de vie et de mort. C'est-à-dire que s'ils vendent votre dette, vous êtes foutus d'un seul coup, quoi. Donc, on a abandonné notre souveraineté.
En se disant que c'était une très bonne idée, en plus.
Et ces crétins là-bas, les Qataris, ils nous achètent une dette qui vaut rien. Oui, 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 ça, mais
quand je puis,
par exemple, M. Sarkozy a été obligé de donner au Qatar un privilège fiscal que toutes les affaires qui vivent en France, ils ne paieraient pas d'impôts dessus. Quoi. Vous voyez, donc je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous abandonnez vos souverainetés comme ça, mais la série d'erreurs que ces gens-là ont fait depuis 40 ans mais dépasse l'entendement. Quoi.
Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'avec l'euro, hein, avec Maastricht, on est plus sensible au déficit français. Parce que qu'est-ce qui se passe désormais? On ne regarde plus la France. On dit, ah oui, mais la zone euro est en excédent. Alors tout va bien. Ce qui se passe en France, c'est pas très grave. Donc en 2002, la dette augmente d'un coup de 60 milliards d'euros. Et en 2003, 200 milliards. Bah oui, allons-y. Hein. Et c'est en 2002 que commence, à ce moment-là, le toboggan de la désindustrialisation, parce qu'on a enquillé les 35 heures, la dette.
C'est bien avant, ça a commencé en 92, et il a fallu 10 ans pour que les pauvres sociétés françaises qui avaient des fonds propres bouffent leurs fonds propres pendant 10 ans, et la faillite est arrivée 7 ou 10 ans après. C'est quelque chose que j'essaie de beaucoup dire à nos auditeurs, c'est quand un gouvernement fait une erreur considérable, vous n'en voyez pas les résultats tout de suite, vous pouvez les revoir 10 ans après. Et c'est ce qui s'est passé. L'erreur de Trichet, c'est la désindustrialisation qui commence à devenir évidente en 92.
Mais la question, c'est comment expliquer que la droite et le centre aient échoué à
Mais
ce point-là,
pas de droite.
À expliquer aux Français que la dette est sociale et que c'est Maastricht qui la rend possible.
Mais c'est parce que, je veux dire, il y a comme le disait je ne sais plus qui, il y a deux partis de gauche en France dont un s'appelle la droite. Quoi.
Ouais.
C'est parce que tous ces gars-là n'étaient pas de droite. Chirac n'était pas de droite. Juppé n'était pas de droite. Enfin, je veux dire, c'était des technocrates sans aucune âme, qui n'aimaient pas leur pays, qui étaient juste nuls, quoi.
Parce qu'en réalité, on essaie de nous expliquer que l'euro serait ultra-libéral, alors que précisément l'Europe
permet une
est
croissance...
keynésienne. Elle est keynésienne. Si quelque chose était libéral, c'était l'époque de De Gaulle.
Oui. C'était
le plan Rueff-Pinet, comme j'en parlais tout à l'heure.
Et c'était le touch.
On est rentré d'un monde qui était libéral vers un monde qui est keynésien.
Il est
structurellement keynésien.
Mais il y avait une concurrence des monnaies. Donc, si tu étais mal géré, ta monnaie se pétait la gueule. Mais à partir du moment où il n'y a plus de concurrence des monnaies, ben, qu'on ne me dise pas que c'est un monde libéral. Un monde qui supprime la concurrence des monnaies ne peut pas être libéral. Ils nous ont raconté. Donc,
et ils continuent, c'est-à-dire que si tu regardes des types comme Onfray, ils te parlent de l'Europe libérale. Tu te dis, mais de quoi vous parlez? C'est une Europe keynésienne.
Il ferait mieux de l'appeler l'Europe technocratique, mais ça veut simplement dire qu'Onfray, malheureusement, c'est un type intelligent, mais il comprend rien à l'économie, quoi. Il comprend rien à l'économie, c'est pas un méchant garçon. Il est même assez brillant.
Alors, on arrive en 2007-2012. Donc là, Sarkozy est élu. C'est le président qui était élu avec le plus de voix de toute la Ve République.
Parce qu'il avait tenu un discours national.
Il avait tenu un discours national. Il était dans... Il avait Buisson qui est le conseiller. Il était sur un discours qui était aussi assez, avec Guéant et ainsi de suite, assez identitaire. Il reprend des grands mythes. Il fait une très bonne campagne. Il y avait beaucoup de fonds aussi, comme on le sait. Et il aurait dû s'atteler à des réformes de retraite courageuses. Mais bon, on peut dire, peut-être, en tout cas, il a la malchance d'arriver au moment de la crise des subprimes, et en décembre 2008, au contraire, il annonce un plan de soutien de 34 milliards d'euros à l'économie, ce qui n'était pas véritablement forcément ce qu'on aurait dû faire. Donc la dette publique française monte à 86% du PIB, puis à 89% en 2011, 29 points de plus que l'objectif promis aux Français en 2007.
Ben, c'est-à-dire que monsieur Sarkozy, vous savez, c'est dans les difficultés qu'on voit la sincérité des gens. Ils nous disaient, je veux rendre de leur dignité aux Français, etc., qu'ils redeviennent. Il y a une crise qui arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il dépense plus d'argent étatique. C'est-à-dire le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu baisser les impôts sur les Français et ne pas augmenter les dépenses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence. Si tu baisses, tu redonnes de l'argent à l'individu. À ce moment-là, il prend des décisions et ça repart. Donc il y avait le choix, à ce moment de la crise de 2008-2009, où tu baissais les impôts pour permettre aux gens de disposer de plus d'argent, ou bien c'était l'État qui s'en chargeait. Mmh. Ben, il a choisi l'État qui s'en charge, et donc ça veut dire que...
Ils vont toujours vers le renforcement de leur propre pouvoir.
Et voilà, c'est-à-dire que c'était juste un type qui nous devait raconter des calembres d'Aisne.
Donc à ce moment-là, l'Italie va mal, on veut pousser Berlusconi sous la tutelle du FMI, le spread italien explose à 175 points et Mario Monti procède hyper vite.
Sans avoir aucun droit. Contre tous les traités, il dit « je vais acheter la dette ».
À une réforme des retraites. Là, je te parle de Mario Monti, de Draghi.
Oui. Membre du... je veux dire, européen, c'est-à-dire qu'ils
ont... Alors, Mario Monti, à l'époque, fait une réforme des retraites, et en attendant, aujourd'hui, le Portugal, l'Italie et l'Espagne ont des excédents primaires. Donc c'était bien de faire cette réforme des retraites. Mais, et aujourd'hui...
Mais je ne sais pas si on peut attribuer le fait que l'Italie aille bien aujourd'hui à Monti, parce qu'en
Non, c'était simplement, en tout cas, que la réforme des retraites en Italie a été faite de longue date, et que nous...
On n'y est toujours pas.
On n'y est toujours pas. Hein ? En 2024, on a 18 millions de retraités, 4 millions, je parle de la France, hein, 4 millions d'allocataires, 2,6 millions d'allocataires chômage, donc 24 millions sur une population active de 57 millions, soit 42%.
Attends, bouge pas, dans la population active, il y a aussi 3 ou 4 millions de fonctionnaires.
Attends, et si je rajoute les agents publics, de près de 6 millions, on est à 52% de la population active française éloignée qui dépend de l'État.
C'est-à-dire qu'il vit dans un monde sans concurrence.
Voilà.
Il n'y a pas...
Mais c'est-à-dire que si tu fais voter ces 52%...
Bah, ils se retournent majoritaires.
Pour plus de coiffeurs, alors que c'est une académie de coiffeurs, ils vont dire oui, plus de coiffeurs. Enfin, je veux dire, 52% de la population vit des transferts sociaux et tu vas leur poser la question, est-ce que vous voulez plus ou moins de transferts sociaux? Plus de transferts sociaux?
Ce qu'ils veulent, si à ce moment-là, si tu veux voter 52% des gens comme ça, ils vont tous vouloir prendre plus de argent à Bernard Arnault pour leur donner à eux.
Bah, c'est
ce que disait Bastiat. Si l'État prend de l'argent à Paul pour le donner à Pierre... L'État disposera toujours du soutien actif de Pierre. Surtout s'il y a très peu de Paul et beaucoup de Pierre, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, on revient à une notion de Bastiat, c'est que l'État, c'est une citation que je vais essayer de faire de mémoire, mais c'est l'État est le mythe par lequel chacun espère vivre aux dépens des autres.
Et voilà.
The Great Fallacy.
2012-2017, c'est le long remords de la gauche. Le 26 juillet 2012, en pleine crise de l'euro, Mario Draghi, donc le voilà, le tout nouveau président de la BCE, a prononcé son « whatever it takes ». La veille de l'intervention de Draghi, le spread italien est à 536 points de base et l'espagnol à 638. La BCE lance donc le quantitative easing, le QE, qui durera une décennie en injectant des liquidités gratuites dans les bilans bancaires et en faisant baisser les taux jusqu'à ce qu'ils deviennent négatifs.
C'est-à-dire, injectera des liquidités, essayons de traduire ça dans un langage que tout le monde comprendra, fait marcher la planche à billets.
Ouais. Et je continue, imprime comme des gorées.
Imprime comme des gorées. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la masse monétaire par rapport à la quantité d'objets et de services rendus en Europe, je crois, triple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une émission d'obligations, des obligations qui sont là, qui ont été émises dans les 20 dernières années, qui sont absolument gigantesques, et compte tenu de l'absence de croissance en Europe, parce que l'Allemagne ne va pas bien non plus, eh bien, je sais, j'ai aucune idée de la façon dont ça va se passer. Donc aujourd'hui, on a un problème de dette en Angleterre, en France, en Allemagne, partout, qui est absolument gigantesque. Et j'ai pas la moindre idée de la façon dont ça va être traité.
Et alors, c'est magique. En juillet 2015, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait Mario Draghi? Ils achètent massivement les dettes des États eux-mêmes, ce qui était profondément interdit par tous les traités, et ce qui fait que quelquefois j'entends certains d'entre vous qui disent « Ah oui, mais Charles Gave qui avait annoncé la fin de l'euro. » Mais oui les gars, les petits cocos.
Il a disparu l'euro. Il a disparu entre 2012 et 2015 parce que ça n'avait plus rien à voir avec les traités.
Ça n'a plus rien à voir avec les traités.
L'euro d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'euro d'autrefois.
Si on commence à faire des règles et qu'on analyse à partir de règles et qu'au fur et à mesure vous changez l'énoncé, hein, c'est toujours pareil, sachant que deux trains de V sont à des vitesses de machin et qu'au milieu vous changez les règles, bah bien évidemment votre énoncé à la fin va être faux. Et c'est ce qui s'est passé. Il était interdit d'acheter les dettes des États eux-mêmes.
Alors ils avaient fait une grosse astuce, c'est qu'ils ne les faisaient pas acheter par les États.
Non, ils les font acheter par des banques commerciales.
Ils les faisaient acheter par des banques commerciales.
Ils le font toujours du reste.
Ils le font toujours. À qui filer des primes pour acheter les dettes? Tu vois, c'est-à-dire que donc, ils achetaient pas les dettes, mais en fait, ils achetaient les dettes. Et donc, les banques, à la place de prêter de l'argent aux entreprises, etc., qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles se mettent à prêter de l'argent uniquement aux États. Et puis, si vous voulez aller faire, si vous voulez avoir un crédit pour votre entreprise, vous pouvez toujours brosser. Il n'y a plus personne à
votre banque. Ben non, il n'y a plus de liquidité, puisque tout est parti à refinancer. Et donc, François Hollande, qui reprochait à Sarkozy d'avoir accumulé 600 milliards de dettes, en fera quand même 350 milliards de plus.
Donc, et en plus, il a pas eu en 2008-2009, lui.
Oui, en plus. Donc, je le vois parfois Hollande dire oui, moi qui n'ai pas fait de dettes et ainsi de suite. Donc, vous pouvez lui dire doucement la boîte à camembert.
C'est quand même lui qui a eu cette phrase immortelle qui m'a toujours fait rire. C'est de toute façon, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Voilà. Ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Mais comment ce type enseignait l'économie à Sciences Po? Et vous étonnez-vous qu'on n'ait que des crétins aujourd'hui.
Et on arrive en 2017-2024 dans les infortunes du Covid.
Alors là aussi autre chose. Les infortunes du Covid, la dette est montée, c'est à cause du Covid. Pipo, ils ont eu un Covid très fort en Suède. Hein. Ils ont eu moins de morts que nous. Et ils n'ont pas dépensé autant d'argent. Donc la question c'est, pourquoi a-t-on dépensé tout ce pognon? Pourquoi a-t-on fermé les entreprises? Puisque la raison c'est, j'en arrive à me dire... C'est un peu la thèse que je défendais dans mon livre dernier, là, la vérité vous rendra libre. C'est que il y a une classe en France qui veulent que la France soit mise sous tutelle.
Je crois de mémoire que la crise, Bruno Le Maire l'a financée par 14 points,
oui.
Alors que dans les autres pays, la moyenne était à 4 points.
Et en Suède, zéro.
Ouais. Donc pourquoi est-ce que nous, c'est 14 points et les autres, c'est 4? Je veux dire, il a quand même filé des subventions. Bon, il ne s'est pas compté, sûrement, hein, mais au-delà de ça, il y en a qui s'en sont mis plein les fouilles.
Oui, mais enfin, il y a des gens quand même qui savent faire des règles de 3, quand même, j'espère, au ministère des Finances. Et je n'ai entendu aucun haut fonctionnaire se plaindre de quoi que ce soit. Donc, il y a eu... vous n'avez que deux possibilités. Quand vous regardez cette espèce de dérive européenne qui a amené la France vers la banqueroute, hein, qui a commencé, mettons, il y a 30 ans. Ou bien c'était vraiment des incompétents incroyables. Bon, comme le disait chez Blucky, entre le complot et la nullité... Choisir la nullité. Donc c'est possible qu'ils étaient tous plus nuls les uns que les autres. Dans ce cas-là, il faut réfléchir à la façon dont on sélectionne nos élites, c'est pas la bonne. Ou bien c'est qu'il y avait... un peu en suivant Jean Monnet, l'idée que la nation, c'était une mauvaise chose, que ceux qui avaient inventé l'État-nation, c'était la France, et qu'il fallait, en quelque sorte, soumettre la France à une... que la France n'existe plus, qu'en quelque sorte qu'elle soit à la tête de l'État, des réélections financières, que ça marche plus. Ben, quand je vois ça, je me dis, je suis pas certain. Je suis pas certain qu'il n'y a pas eu une volonté de détruire notre pays. Mais je peux pas le prouver. Hein. Mais enfin, quand je vois tout ça, je me dis quand même, quand tu vois tous les trucs, tu te dis, bon, ben, ça mène toujours vers le même résultat, c'est peut-être par hasard, quoi.
Bon, on arrive un petit peu à la fin de cette émission, ce qui va nous permettre de conclure, et en reprenant les mots du cardinal de Bernis qui disait « Je vous interdis d'analyser votre impuissance ». Bon alors, si les taux ne baissent pas, la charge annuelle des intérêts va monter à 120 milliards d'euros en 2030 et le taux moyen de notre dette passera au-dessus de la croissance économique en valeur.
C'est déjà fait.
C'est déjà le cas. Charles peut vous le dire. Depuis juillet 2025, la dette française se paie plus cher que la dette italienne. On l'a vu, ça a été amplement recensé.
Je crois même que la dette grecque.
On peut, tu le dis souvent, choisir de garder un État-providence. On peut se dire, on veut plus de ronds-points, on veut plus de fonctionnaires qu'en Allemagne. On peut choisir. Il faut s'organiser.
On ne peut pas avoir plus d'État-providence quand les autres en ont moins et avoir un taux de change fixe avec les autres. Ça, ce n'est pas possible parce que ça veut dire que notre système privé va sauter, va être foutu en faillite.
Voilà. On ne peut pas non plus demander à l'État-providence de couvrir l'ensemble de nos besoins sans voir que l'économie réelle ne suit plus, et ce, depuis longtemps. Il faut, si tu veux, au bout d'un moment, que nos politiques qui n'arrêtent pas de demander « et on veut ceci, on veut cela », on veut se rendre quand même compte que les gens qui produisent, ceux qui sont à la source du fait qu'on peut redistribuer, ne sont pas les deep pockets qui pensent et que l'argent ne pousse pas dans les poches de mon papa.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup d'activités nouvelles qui se créent dans tout ce qui est informatique, intelligence artificielle, gestion, etc. Et il y a quelque chose qui me fascine, c'est que si tu maintiens ton activité en France, dans ce domaine, tu vas payer, mettons, 40% d'impôts sur tes profits. Si tu la mets à Dubaï, ça va être zéro. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, si tu réfléchis, comme ces profits ne sont que des zéros et des uns dans un ordinateur, que tu aies une activité en France servie par Dubaï ou en France servie par la France, tu peux te dire que tes profits vont être deux fois plus élevés à Dubaï. Donc si tu es un gros malin qui a une bonne idée de vente par correspondance, j'en sais rien, tu vas la mettre à Dubaï. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces taux d'imposition pour nourrir cet état social sont tellement élevés que tu ne peux pas t'empêcher de te dire « Ben, je vais aller mettre ma création de valeur à l'extérieur juridiquement. Ça, pour toi, ça ne change rien. Il faudra que tu sois 3 ou 4 fois par an à Dubaï, et puis c'est tout. » Donc,
non, mais il faut quand même que les gens se rendent compte, et j'espère que cette émission l'a quand même montré dans une certaine mesure, on ne peut pas continuer avec ce poids des retraites dans notre économie. Il faut une réforme structurelle des dites retraites. Il faut absolument qu'on regarde que un politicien, ait le courage de dire ces choses. Le système actif, aujourd'hui, ne peut pas payer pour l'ensemble redistributif qui a été mis en place. Alors, il faut l'alléger. On peut conserver une partie d'État-providence en le faisant de façon rationnelle. On ne peut pas continuer à avoir ce cumul d'APL, d'aide aux mères isolées, d'aide aux familles. On a beaucoup trop de poids sur l'économie réelle. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut véritablement qu'on ait un sursaut et que des hommes et des femmes politiques aient le courage de dire les choses.
Alors, il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est de dire aux gens, vous avez cotisé pour votre retraite, vous avez un acquis. Calculer la valeur de cet acquis en fonction de l'âge du gars. S'il est près de la retraite, bon, c'est à lui. Et puis, si tu commences maintenant, si tu as encore 20 ans de retraite devant toi, tu sais bien que tu vas cotiser, que tu ne vas pas toucher grand-chose. Ben donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner aux gens un avantage fiscal pour dérouler ta propre retraite. C'est ce qu'ils ont fait en Suède, tu vois. Tu dis, bon, ben, la retraite par répartition, vous n'allez pas toucher grand-chose. Donc, vous auriez dû toucher, je ne sais pas, 100, vous allez toucher 30. Allez, si tout va bien. Donc on vous donne un avantage fiscal de 70 et vous vous démerdez. On, vous ne payez pas d'impôt sur toute l'épargne que vous faites jusqu'à ce que vous arriviez à 70.
Bon, il faut introduire une dose de capitalisation.
Ben, c'est ce que je te dis.
Oui, c'est la retraite individuelle, c'est ça. Il faut introduire une dose de capitalisation à partir d'aujourd'hui.
Mais il ne faut pas que l'État s'en charge. Non. Parce qu'à ce moment-là, ils vont le dépenser. Il faut donner un avantage fiscal à chaque citoyen pour qu'il puisse créer sa propre capitalisation dont il sera responsable lui-même.
Et ceux qui attendent après leur retraite, rendez-vous compte, ça ne me fait pas plaisir, j'en fais partie, je suis une génération X, que nous n'allons pas toucher ce à quoi nous avons cotisé, c'est une réalité, la pyramide est ainsi faite.
Mais donc tu dois avoir un avantage fiscal.
Oui, mais
exactement.
Avant-hier, il faut commencer tout de suite, parce que moi, là, reste, je veux dire, j'ai 55 ans, je vais pas, imaginons que je travaille jusqu'à 65, j'ai que 10 ans à faire de la capitalisation.
Oui, mais aussi, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a toute une série d'activités qui ne sont pas pénibles, dans lesquelles les gens prendront leur retraite, quand ils le veulent.
Pas mais encore faut-il qu'on allège les dispositions légales en vigueur. Retarder l'âge légal de la retraite. Et permettre à ceux qui le veulent, effectivement, d'avoir avec
souplesse... Moi, je bosse, c'est 82 ans.
Et d'avoir la souplesse de travailler plus tard. Parce qu'il va falloir travailler plus tard.
Mon frère a travaillé beaucoup plus tard. Il s'est passé fait le meilleur rigolo, c'est en Suède, encore une fois. J'ai un frère qui y vit, donc il avait travaillé toute sa vie. Il avait tous les points pour la retraite, etc. Mais il a dit, je prends pas ma retraite. On lui a dit, vous pouvez continuer à travailler, pas de problème. Mais sur votre bulletin de salaire, vous continuez à travailler, on va continuer à vous piquer l'argent pour la... Il ne pouvait pas avoir plus de retraite, tu vois ce que je veux dire ? Mmh. On va vous continuer à vous le piquer pour le distribuer aux autres. Mais c'est pas idiot, ça. Tu vois, vous voulez travailler en plus, mais quand même, il faut continuer. Donc vous continuez à payer pour la retraite des autres. Ben, je trouvais ça. Donc il faut prendre deux choses. D'abord, il faut sortir ce problème de l'État, le remettre au niveau du citoyen en disant, vous savez, quand même, vous aurez ce que j'ai en Angleterre.
Et il faut arrêter avec ce mensonge que propage la gauche, qu'on serait dans un pays inégalitaire. C'est complètement faux.
Et qu'il faut augmenter. Et donc, la solution, c'est d'augmenter l'impôt sur les riches.
Oui, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Et par ailleurs, où est-ce que c'est écrit que l'impôt, il y a différentes philosophies de l'impôt. Mais j'en ai marre de voir l'impôt comme une punition. L'impôt, c'est censé être une participation pour faire en sorte que la communauté, enfin, les choses qu'on met en commun, que ce soit l'école, les hôpitaux et ainsi de suite, fonctionnent. Arrêtez de dire que ça devrait être une pénalité. Et puis, une pénalité, pourquoi ? D'avoir réussi, mais on a quand même le droit encore d'avoir un talent.
Fond, l'impôt, c'est devenu la solution qu'ont trouvé les socialistes pour punir ceux qui ont réussi et subventionner leur échec à eux. Tu vois, donc, c'est-à-dire que tu te...
Oui, mais tout en maintenant... une population sur des transferts sociaux dans des minima qui n'aident personne.
Donc,
encore une fois, comme on l'a vu, le RSA, le RMI, à l'origine, touchait 400 000 foyers. Aujourd'hui, il en touche
4 millions. Donc, la solution... Oui, 4 millions, c'est ce que tu avais dit. Donc, et je voudrais aussi dire quelque chose que je vais essayer de vérifier, mais j'ai beaucoup travaillé sur les sujets fiscaux, etc., dans ma carrière, comme vous l'imaginez. De ma vie, je ne crois pas avoir vu un seul déficit budgétaire réduit par une augmentation des impôts. Les seuls trucs qui ont jamais marché, c'était une diminution des dépenses et une baisse des impôts.
C'est toujours pareil, c'est comme les impôts temporaires comme la CSG qu'on a encore, alors que la chose devait être...
C'est de 1,9 en plus.
Voilà. Donc, et qui grève d'autant le salariat.
Je demande à tous ceux qui nous écoutent, là, est-ce que vous pouvez... Si j'ai peut-être des professeurs d'université ou j'en sais rien, est-ce que vous pouvez me montrer un cas d'une diminution du déficit qui a été créé par une augmentation des impôts ? Dans l'histoire financière, ça ne doit pas être difficile. Moi, je vais peut-être lancer ChatGPT là-dessus, tiens.
Il va peut-être te trouver des choses, mais tu sais comme ils sont, ChatGPT, il te trouve des réponses.
Oui, mais c'est peut-être, si ça s'est passé au bout de Tang en 1922, tu vois ce que je veux dire, c'est que...
Mais moi, il m'a inventé des trucs, parce que ChatGPT, je lui avais posé des questions sur la reine Claude. Et en fait, la reine Claude, donc, c'était la femme de François Ier. Et au lieu de me répondre sur la reine Claude, il m'a répondu Claude de France, qui était la fille de Catherine de Médicis.
Voilà.
Et donc il m'a induit en erreur. Heureusement que j'ai vérifié les dates et je me suis dit c'est bizarre, ça colle pas. Mais sinon, il me répondait Claude de France au lieu de me répondre sur la femme de François Ier.
Oui, donc, il y avait comme...
qui était Claude de Bretagne.
Oui.
Non, attends, donc, c'était l'autre Claude de Bretagne. Bon, bref.
Bref, il y a eu des Valois, ça n'a pas été très net. Moi, je me souviens bien des rois capétiens, puis il y a eu les Valois après, puis les Bourbons, je les connais bien. Mais les Valois, ça a flotté un peu, c'était la guerre de Cent Ans, c'était... J'ai pas...
Moi, j'ai essayé de revoir récemment, mais c'est vrai que c'est velu. Hein. Et puis, tu le revois, et puis après, tu le reoublies. En fait, encore une fois, c'est ce qu'on disait quand on était petit, il faut apprendre et désapprendre de sept fois avant de le connaître.
Avant de le savoir vraiment. Donc voilà, donc, pour revenir, pour conclure là-dessus, c'est qu'il y a une série de mythes. Le mythe, c'est, si vous voulez, c'est que...
c'est des grosses mythes.
Il y a des grosses mythes qui font d'énormes troubles. Mais le premier mythe, c'est que le déficit viendrait d'une injustice sociale où les riches en mettraient plein. C'est pas vrai.
Non.
C'est pas vrai, ça n'a rien
à
voir.
Ah bah non, regardez, là, on vous a quand même prouvé par le menu... au travers du temps, que ça a été fait par, à chaque fois, un élargissement des dépenses sociales et aussi parce que...
Non financées.
Que des retraites aussi ont été mal calculées et depuis la nuit des temps.
Donc,
avec une population qui était ce qu'elle était, puisque quand vous avez une génération de baby-boomers qui arrive au temps de la retraite avec une pyramide des âges inversée et que vous avez décidé de votre système de répartition se faisait... Comment vous voulez que ça fonctionne? Je vois pas.
C'est le premier mythe.
Il n'y a pas besoin de faire.
Ça, c'est le premier. Le deuxième mythe, c'est les mythes keynésiens, que si l'État dépense, ça va créer plus de revenus. Et donc,
on va faire des relances par la consommation.
On va faire des relances par la consommation. Donc, la dépense étatique relance l'économie et se paye elle-même au travers du temps. Ça a été vrai pendant au début, mais ça n'est plus vrai du tout depuis 15 ans. Maintenant, la dépense étatique ralentit la croissance. Donc, vous avez ces deux mythes fondamentaux, l'inégalité et la dépense étatique, qui sont tous les deux qui nous a amené au désastre. Donc, il faut sortir intellectuellement de ces deux mythes. Et ils n'y arrivent pas.
En attendant, si vous voulez en savoir plus, je ne saurais trop vous recommander ce livre donc, de Nicolas Dufourcq, La dette sociale de la France, que j'ai eu grand plaisir à lire ce week-end et qui est encore une fois un livre que vous pouvez avoir en référence quand vous vous posez des questions, parce que ce n'est pas de la petite lecture de week-end, mais...
Ce n'est pas le livre que vous lisez sur la plage.
Non, non, non. Encore que parfois, tu vois des gens qui se baladent avec des Nietzsche. Donc, je me dis après
ça,
tout...
Ça, c'est...
Je vois des gens parfois qui font leur crâneur avec un La Pléiade. Déjà, d'où t'amènes un La Pléiade à la plage pour mettre des grains de sable dedans. Et qui ensuite, qui peut lire du Nietzsche à la plage.
Moi, j'avais un des copains qui s'était fait choper dans le train un jour avec le FT, tu sais. Il parlait pas l'anglais. Mais il trouvait que ça faisait chic. Il avait 18, 20 ans. Il se baladait avec son FT sous le bras parce que ça... Et donc, il était dans le train, il y a un Anglais qui a commencé à lui parler, il était bien embarrassé, quoi.
Ah oui, c'est ça,
donc,
ça a l'air
malade. Donc, quand tu avec Nietzsche, tu tombes sur un professeur de philosophie qui commence à te poser des questions, tu vas l'air idiot. Donc, essayez pas de...
Oui, ça
comme on
disait rien.
Autrefois en France, péter plus haut de votre cul, parce que ouais. Ça, c'est fatigant.
Ça fatigue tout le monde, mais enfin, tu sais, on est dans une époque où t'as des agents immobiliers qui te parlent de taux de change, donc qu'est-ce que tu veux? Voilà, écoutez, on est ravis d'avoir fait cette émission pour vous. Si vous avez des questions, posez-les en dessous, je serai ravie d'y répondre. Et c'était velu, mais je suis contente de l'avoir fait, j'espère que ça vous aura intéressé.
Absolument.
C'est un sujet pas très drôle, parce qu'il nous concerne tous, mais il faut véritablement trouver des politiques avec des coronets et qu'on s'attelle à cette histoire, parce que ça ne va pas se résoudre tout seul.
Non, ça va pas se résoudre tout seul.
Et ça passe à ranger avec le temps.
Et ce que dit le brave Kennedy, ce sénateur de Louisiane qui est tellement drôle aux États-Unis, il dit qu'il faut quand même que les hommes politiques se commandent des coronas sur Amazon parce qu'ils souffrent d'une grande absence.
Oui, puis tu sais, c'est ce que, je sais plus, c'était cette tendance anglaise qui disait que les hommes politiques et les bébés doivent être changés souvent. Et pour les mêmes raisons.
Et pour les mêmes raisons. Ou alors, puisqu'on est dans les horreurs, il y a Kennedy qui dit, le cerveau, ce même Kennedy, le sénateur de Louisiane, il est marrant comme tout, il dit, le cerveau humain est une chose extraordinaire. Dès qu'il est dans le ventre de sa mère, ça commence à bouger, etc. Et dès qu'il est élu au Congrès des États-Unis, il pense plus rien. Je crois que c'est...
C'est un peu pareil à l'Assemblée nationale. Bon, voilà.
Voilà, c'est l'électrocéphalogramme plein.
Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois et on vous dit à très vite et à la semaine prochaine. Merci.